VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h à Dakar au Sénégal. Bonjour, bienvenue. Une conférence panafricaine sur le paludisme avec 3000 experts s'est ouverte dimanche près de Dakar au Sénégal pour faire le point sur la lutte contre le paludisme responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde et toujours en progression selon l'Organisation mondiale de la santé. Les experts vont partager jusqu'au 20 avril les dernières avancées de la recherche en matière de surveillance de la maladie, de diagnostic, de traitement ou encore de progrès vers la réalisation d'un vaccin toujours attendu. Une quinzaine d'assaillants ont été tués lors de l'attaque qui visait à prendre le contrôle du super camp de l'ONU et de la force française Barkhane samedi à Tombouctou dans le nord du Mali. Un casque bleu a été tué et une dizaine d'autres blessés. Joint au téléphone par notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, le secrétaire général du mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, basé à Menaka, Moussa Ag Acharatouman, a déclaré, je cite, « Il faut que les Maliens comprennent que le monde ne va pas faire notre sécurité à notre place. » On doit s'assumer. Il s'explique.
Aujourd'hui, il faut que les Maliens sachent que c'est ni à la France ni à l'aménagement de faire la sécurité et de ramener la paix pour nos populations à notre place. C'est d'abord notre devoir, c'est d'abord notre mission aujourd'hui de se donner la main dans un premier temps, se réconcilier et dans un deuxième temps, essayer vraiment de contrer cette menace-là parce que nous en sommes les premières victimes. Et cette guerre, personne ne peut la réussir à notre place et personne ne peut la faire mieux que nous. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans les zones dans lesquelles les populations locales se sont engagées, c'est les zones dans lesquelles on est en train de respirer et les zones dans lesquelles les populations reste dominée par ces organisations totalitaristes, malheureusement. Même si Barkhane est là, même si l'armée est là, si les populations ne collaborent pas, eh bien c'est quelque chose qui ne va jamais aller de l'avant.
Moussa Ag Acharatouman. En 2016, c'était avec beaucoup d'espoir que les Béninois, après 10 ans de gestion de Boni Yayi, avaient suivi la cérémonie d'investiture de leur nouveau président Patrice Talon, un homme d'affaires qui a fait fortune dans le coton. 2 ans après, l'espoir a cédé la place à la déception, selon la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
100 000 emplois par an, telle était la promesse faite par Patrice Talon. Mais 2 ans après son élection, le gouvernement Talon n'a réussi à créer que 63 284 emplois selon la plateforme des organisations de la société civile dans un rapport publié le 6 avril 2018 et supprimé des milliers d'autres par le biais des réformes institutionnelles et politiques très controversées.
Et le gouvernement actuel est vraiment un regard sur l'emploi des jeunes afin que ceux qui ont les diplômes puissent trouver affaire.
Les jeunes continuent toujours d'attendre. Ce que je conseille pour les jeunes, c'est l'entrepreneuriat et rien que l'entrepreneuriat.
Donc c'est une mauvaise politique que d'investir les jeunes au stade et de les laisser 2 ans après à la maison.
Le chômage est à un taux très élevé actuellement, 14,3% selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Le taux de sous-emploi est quant à lui de 50% selon le même institut. Pour certains, le nouveau départ prôné par le président est une utopie.
Le président Talon avait dit « je suis prêt tout de suite et maintenant ». Mais dans ses actions, on constate qu'il n'est pas prêt.
Côté sécurité, c'est bon. Côté énergie, c'est bon. Le reste, c'est zéro. Le chef de l'État a fait des
Pour d'autres, ce n'est pas encore le pays d'abondance, mais le chef de l'État mérite qu'on le reconnaisse ses efforts.
Qui dit que le chef de l'État ne travaille pas? S'il a travaillé, moi, du coup, le chef de l'État a travaillé.
Sur papier, on le félicite, mais les réalités du terrain sont là.
En 2 ans de gestion de Patrice Talon, la vie est de plus en plus chère. Les produits de première nécessité ont connu une nette augmentation. Le pain est toujours à 125 francs la baguette. Le gari, fabrication locale, a connu une hausse de 100 francs CFA. Le taux de misère et de pauvreté, selon l'INSAE, est passé de 35,1% en 2014 à 41,7% en 2018. Pour Edouard Sonou, économiste de formation, les causes sont évidentes.
Nous avons une économie essentiellement fiscale et ça ne suffit pas. Nous avons une croissance qui est tirée par le coton. On passe tout son temps à aller motiver les paysans à cultiver le coton, qu'on ne mange pas, qu'on ne délaie pas, qu'on exporte intégralement.
Et comme si cela ne suffisait pas, une crise sociale s'est installée et semble résister à tous les appels à la négociation. Pour Patrice Talon, la situation actuelle que traverse le Bénin avec la paralysie de l'administration publique est un chemin essentiel pour atteindre de meilleurs horizons.
Il y a une fronde sociale, c'est vrai, mais à vouloir préserver la paix, la quiétude, la tranquillité au sacrifice de l'effort, au sacrifice des réformes, au sacrifice des exigences d'une renaissance de notre pays, nous allons compromettre la paix pour les temps à venir.
Une des promesses reste vaine, la question énergétique. Pendant 2 ans, les projets se sont succédés sans pour autant résoudre l'épineux problème des délestages dont les multiplications ces derniers mois constituent un casse-tête pour les chefs d'entreprise et les ménages. Au total, 198 promesses auraient été faites par le candidat Patrice Talon pendant les campagnes électorales, selon la plateforme des organisations de la société civile à Cotonou. En deux ans, la plateforme recense seulement 33 promesses tenues, dont la lutte contre la corruption. Pour Martin Assogba et Jean-Baptiste Elias, tous deux membres de la société civile, Patrice Talon mérite encouragement pour sa lutte contre l'impunité.
Lutte sélective ou non, il faut que nous commençons quand même la lutte contre la corruption pratiquement quelque part.
La lutte contre l'impunité à l'ère du président Talon est beaucoup plus marquée.
Pour reconquérir le cœur des Béninois, Patrice Talon doit rendre leur vie un peu plus facile. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Cameroun, l'opposition rend dispersée pour les prochaines échéances électorales. Les observateurs ont d'ailleurs noté une perte de vitesse chez les adversaires du président Paul Biya. Par exemple, le Social Democratic Front, le SDF, principal parti d'opposition, n'a eu que 7 sièges de sénateurs sur les 70 qui étaient en jeu lors des élections sénatoriales du mois dernier. À Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap nous en dit plus.
La faible représentation des partis de l'opposition s'est accentuée à l'Assemblée nationale et au sein des exécutifs communaux. Selon Maïda Dissédou Yaya, membre du bureau politique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, deux facteurs jouent de plus en plus en défaveur de l'opposition camerounaise.
Les partis ne sont pas tellement appuyés par le peuple. Voilà pourquoi la démocratie n'avance pas dans notre pays. L'alliance entre partis reste nécessaire pour gagner une élection, notamment majeure comme la présidentielle. Le pouvoir est en train de tout mettre en œuvre pour que cette alliance ne se fasse pas.
Reste que l'opposition apparaît de plus en plus désunie à quelques mois des élections municipales, législatives et présidentielles de 2018. Marie-Jeanne Abega, ex-militante du mouvement Alternance 2018, ne croit plus à une candidature unique de l'opposition.
Il y a certains avantages que confère la Constitution lorsque un parti présente son candidat à la présidentielle. On a constaté que beaucoup de gens ne veulent pas que ces avantages soient noyés dans le fait qu'il soit rentré dans une coalition.
En 1992, l'opposition s'était retrouvée en pole position à l'Assemblée nationale avec 92 députés sur les 180. Depuis lors, elle s'est affaiblie considérablement au grand bonheur du RDPC, le parti au pouvoir. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Les États membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert aujourd'hui pour lancer des négociations avec le Maroc sur un nouvel accord de pêche qui devra tenir compte d'une récente décision de la justice européenne sur le Sahara occidental. La commission qui négocie au nom des 28 États membres estime qu'il est possible d'étendre les accords bilatéraux avec le Maroc au Sahara occidental sous certaines conditions selon sa recommandation de mandat de négociation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une réunion d'urgence de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OAIC, s'est ouverte aujourd'hui à La Haye. Cette réunion a été convoquée après l'attaque chimique présumée du 7 avril contre la ville de Douma, qui a entraîné une semaine plus tard des frappes ciblées des Occidentaux. Une équipe d'experts dépêchée par l'OIAC a débuté dimanche dans le plus grand secret une enquête sur place. Et la Russie, pour sa part, s'est engagée aujourd'hui à ne pas s'ingérer dans le travail de la mission de l'OIAC en Syrie, qui enquête sur l'attaque chimique du 7 avril. La Russie a aussi dénoncé les frappes occidentales en Syrie, faisant valoir qu'elles avaient pour but de saper la crédibilité de la mission d'enquête. Passe d'armes ici aux États-Unis entre l'ancien chef du FBI, James Comey, et le président Donald Trump, en révélant avoir imaginé avant l'élection de 2016 que la démocrate Hillary Clinton allait l'emporter. James Comey, l'ancien patron de la police fédérale, a énervé le président des États-Unis. Donald Trump a répondu dimanche matin à sa bête noire dans une série de tweets furieux. Il prenait ses décisions en pensant qu'elle allait gagner et il voulait un travail raclure, a écrit Donald Trump. James Comey a pour sa part affirmé dans une interview à la chaîne ABC que Donald Trump est moralement inapte à être président des États-Unis. Et toujours ici aux États-Unis, la NASA doit lancer aujourd'hui son nouveau télescope spatial en quête de planètes de taille terrestre, susceptible peut-être d'abriter la vie. Au cours des deux prochaines années donc, la mission de cet engin d'un coût de 337 millions de dollars sera de scanner plus de 200 000 des étoiles les plus brillantes au-delà de notre système solaire à la recherche d'exoplanètes dans leur orbite. Jean-Roger Billon à ce micro, prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent et du soleil dans tous les cœurs. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.